7h17, François Gagnon, bonjour.
Bonjour Mathieu.
On en saura plus sur l'emploi au pays ce matin avec des statistiques.
Oui, effectivement, Statistique Canada qui va dévoiler d'ici 1h10 environ les statistiques pour le mois de juillet. On s'attend à un taux de chômage qui devrait diminuer à 5,9% avec une création d'emplois de 25 000. On verra au Québec s'il y a eu un rebond de l'emploi parce que le mois dernier, ça avait été difficile. Il s'était perdu 6 500 emplois. Le taux de chômage avait légèrement grimpé. Il n'en demeure pas moins que hier, il y a eu la FCEI qui a présenté un nouveau rapport démontrant encore une fois qu'il y a énormément d'emplois qui sont disponibles à travers le pays, et principalement au Québec, qui demeure la province championne des postes vacants, où on retrouve le taux le plus élevé. On est presque à 110 000 postes qui sont vacants, qui pourraient être comblés, mais on ne trouve pas les personnes nécessaires pour combler ces fameux postes-là. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ben, il y a une raison de démographie là-dedans, très certainement. D'abord, il y a de plus en plus de gens qui prennent leur retraite. Les baby boomers, on sait, c'est la grosse cohorte. Déjà, c'est amorcé depuis un an ou deux, et ça va s'amplifier. D'autre part, le taux de natalité est quand même relativement bas. On est autour de 1,45, c'est pas beaucoup. Donc, on est à un niveau entre décès naissance à peu près égal. Donc, il n'y a pas de renouvellement de la population. Il y a plusieurs incitatifs qu'on pourrait mettre en place, disent la FCEI, comme par exemple avoir l'immigration ciblée, un peu comme la CAQ le mentionne, être capable d'envoyer les gens à l'extérieur de la ville de Montréal, parce que 55% des postes à combler sont à l'extérieur de la ville, donc on pourrait peut-être avoir cette immigration-là ciblée et les envoyer à l'extérieur. Il n'y en a pas moins que c'est un méchant problème, parce que il y a eu une très, très forte augmentation des salaires depuis déjà un an au pays, tout ça causé par le manque de main-d'œuvre. Tu sais, quand t'es en construction, tu veux embaucher quelqu'un et que t'es incapable, ben là, faut que tu fasses des sacrifices un peu du côté employeur, dire, ben, on va donner des conditions supplémentaires, on va augmenter ton salaire. Même dans cette catégorie d'emploi-là, je lisais sur Desjardins ce matin que les augmentations salariales situaient entre 7 et 8 % dans cette catégorie-là. Dans le domaine des pipelines et du pétrole, même si on a eu des problèmes en Alberta, c'est autour de 9 % et la moyenne nationale au mois de juin était de 3,6 %. Donc, la Banque du Canada regarde ça de très, très près parce que ça va créer effectivement de l'inflation dans le pipeline. Ouais. Et en tout cas, on verra ce matin justement cette croissance d'emploi, mais également ce que je vais regarder de plus près, c'est la croissance des salaires. Ça va être extrêmement intéressant à surveiller.
Elon Musk, une fois de plus sur la sellette, et là, tu te demandes s'il n'a pas écrit un tweet de trop.
Je pense que là, c'est rendu la maladie de tout le monde. Là. On l'a vu avec Chrystia Freeland en fait, la semaine passée.
Il y en a
avec
que ça a moins d'impact que d'autres, on dirait. Là, mais...
Ouais, mais là, ça risque d'en avoir un. Là, parce que la SEC, qui est l'équivalent de l'AMF, donc l'Autorité des marchés financiers, la Securities and Exchange Commission, commence à le regarder de très, très près. Le fameux tweet de cette semaine disant qu'il voulait et qu'il aimerait envoyer sortir Tesla de la bourse, c'est pas nécessairement le tweet, mais c'est de savoir si c'est vrai. Parce que si ce qu'il a mentionné, qu'il avait sécurisé donc les fameux montants de 70 milliards de dollars pour être capable de racheter les actions de Tesla à 420, c'est pas vrai, ça veut dire qu'il pourrait être accusé de manipulation boursière.
Oh boy, ouais.
Et là, ça, oui, là, ça, puis la SEC, ça fait pas la première fois qu'il regarde Tesla. Il y a déjà d'ailleurs une enquête pour savoir si les fameux chiffres de vente et également de projection de vente du modèle 3 sont véridiques. On essaie de trouver la petite faille. Il y a beaucoup de sceptique et de scepticisme dans le marché concernant Tesla, qui brûle de l'argent à tour de bras. On parle d'un milliard par trimestre. Et là, on voit que les liquidités commencent à diminuer. Elon Musk, qui veut transformer cette aura d'entreprise qui fabrique des véhicules pour les riches et de la transformer pour monsieur et madame tout le monde avec un modèle 3 à partir de 35 000 $ là. Mais il en demeure pas moins que il y a beaucoup de sceptiques concernant Elon Musk. Est-ce qu'il va aller vers des fonds? Ça aussi, on va enquêter là-dessus. Est-ce qu'on va aller vers des fonds saoudiens, par exemple, des investisseurs saoudiens, des investisseurs chinois? ou les deux.
Ouais.
Hein, peut-être. En tout cas, on verra qu'est-ce qui va arriver de ce côté-là, mais la SEC l'a à l'œil, et si l'enquête devait être positive sur une manipulation boursière quelconque...
Là, il est dans le trouble.
Il est dans merde. Plus que dans le trouble, c'est dans merde.
L'Arabie Saoudite, écoute, oui. Je trouve ça plate pour les gens qui y trouvent, mais mettons que tu sais, au niveau de l'empathie, il y a des places où ça lève un peu moins. Là. SNC-Lavalin est à risque.
Ouais. Ouais, ben ça fait déjà une cinquantaine d'années qu'ils font affaire avec l'Arabie Saoudite. Hein. Faut quand même le mentionner. Donc, c'est 5 décennies, il y a toute une historique. 11% du chiffre d'affaires international de SNC-Lavalin provient de contrats qui ont été signés avec l'Arabie Saoudite. Et là, il y en a plusieurs qui commencent à dire, ben, si jamais l'Arabie Saoudite coupait tous les liens, ça semble être pas le cas dans le pétrole, ça semble pas être le cas dans les investissements pour le blé dans l'Ouest, mais si jamais il devait annuler ou tout simplement enrayer les contrats, SNC-Lavalin risquerait d'être dans le trouble un peu.
Ouais.
Même si hier en fin de journée, SNC a été obligé d'émettre un communiqué en disant que sont en train d'essayer d'évaluer qu'est-ce qui va arriver si jamais l'Arabie Saoudite décidait de les délester de contrats ou tout simplement les annuler, ceux qui sont en cours. Pour la Banque nationale, en tout cas, les analystes mentionnent que ça risque de coûter 1 milliard de dollars en termes de contrats et à la fin, ben 80 millions de dollars de profit. Ça veut dire quoi exactement? Ben des pertes d'emploi, éventuellement. Donc, en tout cas, on verra au cours des prochaines semaines là, qu'est-ce qui va arriver et surtout qu'on apprend tout ce qui se passe avec l'Arabie saoudite au compte-gouttes. Je pense qu'il n'y a pas une journée où on n'a pas appris quelque chose. Soit qu'on se retire de projets ou d'investissements, puis finalement, on se retire pas.
Mais as-tu remarqué aussi le pétrole? Ils sont pas si pressés que ça d'arrêter d'en vendre non plus?
C'est clair. Puis de toute façon, la grosse portion d'importation du Canada par rapport à l'Arabie Saoudite, c'est le pétrole. Et il y a à peu près qu'une seule compagnie qui en bénéficie, c'est Irving au Nouveau-Brunswick.
Ouais.
Mais c'est quand même 1,4 milliard.
C'est ça aussi. Hein? C'est de l'argent. François Gagnon, merci beaucoup de ta présence avec nous cet été.
C'était un honneur, puis on va se retrouver les fins de semaine.
Exactement.
À compter du 25.
Oui, merci de le rappeler d'ailleurs. 25 août, c'est Week-end Extra. On est de retour. Marie-Hélène est là pour encore deux week-ends, Marie-Hélène Pro.
Oui.
Moi, je vous attends à partir du 25 août pour l'édition régulière à laquelle tu te greffes la fin de semaine.
Effectivement, ça sera un immense honneur de le faire aussi.
Merci beaucoup, François. Salut.
Merci.
Bye bye, 7h24.